En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je n'aime pas reparler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Là où on va, comme disait l'autre, on n'a pas besoin de route. Mais on va quand même avoir besoin d'un gros manteau parce qu'on part pour le pays où même le brouillard sent la frite, le Schnorr. Arras, très exactement. Mieux que ça, Arras en juillet 1775, au cœur d'une famille de boulangers qui fête la naissance d'un bien beau garçon, Eugène François. Eugène grandit tout à fait très bien. À 12 ans, c'est déjà un mastard dont les épaules ont du mal à passer les portes. Mais le môme n'est pas seulement précoce sur le plan physique. Il est très dégourdi pour son âge dans tous les domaines. Preuve en est qu'il se découvre très jeune un vrai talent pour barboter des trucs à droite à gauche. Il se forge une morale toute personnelle qui consiste à estimer que ce qui est dans la poche des autres devrait plutôt se retrouver dans la sienne. Ça ne rate évidemment pas. À 16 ans, ce fils indigne applique ce principe aux poches de ses propres parents et taille la route séance tenante pour la capitale. Le voilà en 1791 à Paris, en pleine révolution. Les opportunités ne manquent pas pour un jeune homme plein d'initiatives qui ne va pas tarder à se faire un nom, Vidocq. Et Vidocq tâte d'abord de la chose militaire, mais finit par déserter quand il réalise que mourir pour la patrie ne rapporte pas une thune. Il écume alors les routes et se fait son éducation dans le monde de la canaille et du crime. Il y apprend l'argot des truands, il y apprend aussi l'art du déguisement, niveau expert, mais ça ne l'empêche pas de se faire agrafer en 1796 et de prendre 8 ans de travaux forcés dans les gencives. Le registre du bagne le décrit à cette époque. 22 ans, les cheveux châtains et fournis, le visage ovale, les yeux gris, le nez épais, les oreilles percées, une cicatrice vers la lèvre. Bref, c'est Bilbo le Hobbit en moins fragile. Après avoir réussi l'exploit de s'évader coup sur coup du bagne de Brest et de celui de Toulon, Vidocq passe les 10 années qui suivent à se faire des roupettes en platine. Mais tout a une fin. En 1809, lassé de passer son temps à fuir à la fois la police et les truands qui lui en veulent, Vidocq décide de passer du côté des poucaves, des balances. Il met le préfet de police de Paris au parfum de ce qui se trame dans la ville, et il est tellement efficace qu'il va se passer un truc assez dingue. En 1811, le préfet le colle à la tête d'une équipe qui n'existe pas, officiellement, la Brigade de Sûreté. Une fine équipe dont le chef est donc un truand, mais dont tous les membres sont des truands. Ils sont bien placés pour infiltrer les réseaux criminels et ils en font partie. Alors, rien d'écrit, rien de vulgaire, comme des notes, des rapports ou des procès-verbaux, tout se fait discrètement, entre deux portes. Pas de salaire non plus, d'ailleurs. Poulet le jour, fripouille la nuit, les gars cumulent carambole et flicaille. Un savant mélange que Vidocq contrôle de main de maître. En un an, 900 crapules finissent sous les verrous. Vidocq est indispensable, il est partout. Il sait tout, il devine le reste, les réseaux, les rumeurs. Il sait qui est compromis, qui fait quoi, avec qui et dans quelle position. Il a ses propres indics, dans les auberges et les cafés, chez les vendeurs de chevaux, dans les théâtres. Et puis il se pique au jeu, au point de devenir l'un des pionniers de la criminologie et de la police scientifique. C'est sous sa direction que pour la première fois, on extrait une balle d'une victime et qu'on coince l'assassin en la comparant avec celle que tire son revolver. C'est aussi lui qui a pour la première fois l'idée d'étudier les taches de sang sur une scène de crime pour en tirer des indications. Longtemps, le pouvoir lui mange dans la main et pour cause, Vidocq nettoie littéralement Paris. Il réalise dans les 18 000 arrestations en 15 ans. En 1818, Vidocq est finalement gracié de ses propres crimes, mais son succès fait des jaloux. Et de manœuvre en manœuvre, Vidocq est finalement poussé à la démission. En 1827, il se range officiellement des bagnoles et se lance dans une carrière d'industriel. Il invente des tas de trucs et de machins, dont le filigrane, une technique qui rend le papier des billets de banque très difficile à imiter. Il publie ses mémoires qui font un tabac, mais s'emmerde à 100 sous de l'heure tellement qu'il crée, en 1833, l'une des toutes premières agences de détectives de France. Pendant 20 ans, Vidocq trempe à nouveau dans tout ce qui se fait de louche, depuis les histoires de cul de la haute société jusqu'à l'espionnage économique. Et puis le voilà, qui finit par casser sa pipe à 80 ans passés, en 1857. Mais si sa vie est terminée, sa légende ne fait que commencer. Tous les grands personnages des romans policiers du 19e lui doivent quelque chose. Ça va de Vautrin chez Balzac, à Dupin chez Edgar Allan Poe, en passant par Jean Valjean chez Hugo et jusqu'à Arsène Lupin, ce gentleman truand, roi du déguisement, qui, comme Vidocq, finit par infiltrer la police. Même Sherlock Holmes, avec son réseau de gamins espions, doit quelque chose à cet homme ambigu, toujours entre deux, toujours un pied du côté du crime et l'autre du côté de la loi. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie, un preneur de large, un joueur de courant d'air, un repris de justesse, un éternel évadé.
Nova.